Tates, Mames, Streben, sehr Kinder, euch zu geben, weil das ist die größte Freude bei sei. Und als Gott helft, sei sei.
Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heint, avec moi, Shachar Feinberg, pour notre première émission post-épidémique, ici, de retour au studio de RCJ. Nous reprenons la vie d'avant, après. La vie où les cafés, les musées, les cinémas rouvrent et se remplissent peu à peu. Avant, après. C'est ainsi que le sujet de cette émission, le dernier film de Nourita Viv, intitulé Yiddish, va ressortir la semaine prochaine, après sa brève apparition juste avant le confinement. Le film qui a comme sujet la poésie yiddish d'avant-garde et d'avant-guerre est un film hautement contemporain. Je ne vais pas trop en parler dans mon introduction, car on a tout un entretien devant nous où je suis allé à la rencontre de Nourita Viv. Mais je dirais que c'est un film qui commence avec le yiddish d'avant, du grand avant, avant la guerre, et qui arrive jusqu'à l'après, c'est-à-dire au présent, là où nous nous sommes. Une conversation donc avec Nourita Viv sur le yiddish Heint. Je vous souhaite bonne écoute et je vous retrouve tout de suite après.
Nous sommes là aujourd'hui avec Nourita Viv, la cinéaste, pour parler de son dernier film, Yiddish. Bonjour Nourit.
Bonjour Shachar.
Alors, ton film est sorti juste avant le confinement, le 11 mars, n'est-ce pas? Il est sorti en salle.
Oui, il est sorti en salle le 11 mars. Et il est sorti en même temps, il y avait une sorte d'avant-première, le même jour au musée d'art et histoire juive. C'était, je crois, le dernier événement au musée avant le confinement.
Oui, je crois, mais j'y étais, je crois que c'était juste deux jours après qu'on a annoncé le confinement, et c'était un changement total. Le soir même était formidable, tout le monde était là, on s'embrassait, on parlait, on a vu le film, c'était magnifique. Et deux jours plus tard, paf, fermé, le rideau tombe, ouais. On est confiné chez soi.
Mais oui, c'était formidable, la salle était pleine. Bon, je crois qu'on s'est embrassé déjà moins, et ça dépend qui et quoi. Moi, c'était le jour où j'ai décidé que j'embrasse un peu moins, parce que j'avais dit, bon, qui sait, tout ça. Et c'est sorti le même jour, l'après-midi, c'est sorti au cinéma Les Trois Luxembourg, à 2h. Et à 2h, la salle était plus que pleine, c'est-à-dire il n'y avait pas assez de place. Et à 2h de l'après-midi, hein. Donc il est sorti quand même, il est resté 4 jours, et après, et bon, fini.
Donc c'est, le film est sorti, et il y a eu 4 projections en tout
Non, pas 4 projections, il y avait 4 projections par jour, et entre à Luxembourg, et ça marchait très bien, et les gens sont venus jusqu'à même les samedis soirs où on a annoncé que... Bon. Et voilà, et puis bon, il y avait aussi toute la presse, hein, parce qu'il y avait annoncé une vraie... Donc toute la presse, tout était formidable, et les gens ont beaucoup aimé, ça, les 4 jours, ça marchait vraiment, vraiment très bien.
Quoi. Oui, c'est un film qui est sorti, qui a été donc vu par tous ceux qui l'ont vu, mais surtout il y avait les rencontres auxquelles on s'attendait qui allaient suivre.
Il y avait vraiment prévu qu'il reste à l'affiche deux mois et demi, et il y avait déjà 25 personnes, il y avait plus, qu'est-ce que je raconte? Bon, bref, parce que c'était en deux parties, il y avait un petit break pour, oui, c'est ça. Mais il y avait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de monde prévu, des gens formidables, vraiment, c'était vraiment réjouissant comme, bon. Ceci dit, c'est pas fini, on compte le ressortir vers octobre avec des débats. C'est-à-dire que le faire, mais là, la semaine prochaine, il ressort quand même. Hein?
Exactement, donc on est juste avant la ressortie,
oui.
Donc du
mercredi,
film.
Mercredi
le 24.
Oui,
juin.
Le 24. Oui. Le 24, avec beaucoup moins de séances. On va voir, tout le monde espère que les gens vont venir. Puis ils peuvent venir, les conditions vont être tout ce qu'il faut pour ne pas attraper rien. Et un peu de distance, bon, moi je serai là juste pour pour présenter les films au début, le mercredi.
Donc après-midi. Tu seras là le mercredi.
Le mercredi après-midi.
Le mercredi après-midi.
Et c'est les cool, c'est l'après-midi, faire un petit tour au cinéma. Je crois que ça va être agréable.
Oui, parce que c'est, donc le film est sorti en avant-première, puis dans les quelques premières projections. La presse en a parlé, tout était prévu, et puis paf, c'est disparu de la circulation. Sauf qu'il y avait la version télé qui est sortie, justement.
La version courte, oui.
La version courte.
Oui, en fait, cette version courte devait sortir après que le film était au cinéma. Mais bon, les choses, comme le film n'est pas sorti, la version courte est sortie à FR3 Grand Est. Bon, ce qui est formidable, je suis très très contente, c'est grâce à eux qu'on a pu le faire. Mais moi, naïvement, j'ai pensé que le film va sortir là-bas, dans la région. J'étais triste, très triste que c'est la version courte, mais je me suis dit, c'est pas grave, c'est la version, c'est dans la région Grand Est, et puis qu'est-ce que j'apprends qu'il y a des replays, et que de cette version, pendant un bon moment, et que le film circule parmi les amis.
Avec Internet.
Et là, j'étais sidérée, parce que pour moi, ce n'était pas le vrai film, parce qu'il manque une personne, c'est Lila, que j'aime beaucoup et qui est formidable, elle est formidable.
Oui.
Et si c'est elle, bon, je savais à l'avance, j'avais dit à tous les participants, que malheureusement, il y a une version courte, il y aura un personnage en moins. C'est très difficile, c'est pas moi qui ai décidé, j'ai dit aux gens de la télé, moi je les aime tous, je vous allez pas, moi je participe pas à cette chose d'enlever une personne. Donc ils ont décidé Lila,
Lila Tillemans, oui. Qui a été ici aussi chez nous à Yiddish Heint avec Reza Turner l'an dernier, et qui nous a lu l'avant-première internationale d'un poème à elle, en yiddish.
Ah, c'est vrai?
Oui, oui, c'était magnifique.
Wow.
Reza a chanté des airs qu'elle a mis, auxquels elle a mis de paroles yiddish.
C'était... Bon, elle est formidable.
Oui,
et
oui.
Puis si, et les gens de Strasbourg l'ont fait un contre-cœur, mais bon, et justement, parce qu'elle est tellement personnelle, bon, je ne sais pas alors qui, comment, moi j'ai refusé de participer à cette chose-là, et c'est comme c'est écrit, comme il y a un midrash qui dit, que Dieu dit, « Kulam banai », ils sont tous mes enfants, et moi j'ai refusé à... Et c'est comme avec Shlomo, quelle, je veux dire, bon, moi je refuse de couper. Et ceci dit, la version, là au cinéma, évidemment, c'est la version longue qui va passer.
Voilà,
qui
donc les gens ont peut-être vu le film passer à la télé, ou sinon sur Internet en replay,
oui, moi, je savais
mais
pas
c'était
du
la
tout.
Version courte.
Oui, et je ne savais pas du tout qu'il y a ces replays, que ça va tellement circuler.
Donc la version régionale est devenue nationale, puis internationale.
Oui, c'était vraiment, et moi je pensais, ça passe à Strasbourg, et j'ai même oublié, pour moi, la sortie était au cinéma, hein? Et en plus c'était avant, la sortie au cinéma était avant, et puis évidemment au musée on a vu la... C'est pour moi le film, c'est bon. Et ceci dit, tout le monde était très content avec ça, moi j'étais vraiment, j'ai souffert beaucoup, mais après je me suis dit, bon, il tourne quand même, les gens vont revenir, et tout ça au cinéma, et tout ça, et il a tellement, c'est marrant, parce qu'il a tellement circulé, bon, cette version a circulé, qu'une amie à moi, et prof qui vit moitié en France et moitié aux États-Unis, elle a eu écho de bon, là-bas elle n'a pas pu le voir quand même, et elle m'a dit, tu sais, à cause du confinement je ne peux pas revenir à Paris, qui sait pour combien de temps, tu ne peux pas m'envoyer la version anglaise et tout ça, bon, parce qu'il y a une version en hébreu, une version en anglais, je veux dire des sous-titres, hein. Et j'ai dit, bon, d'accord, mais tu l'as fait passer à personne, parce que je veux que le film sorte en DVD avec toutes les versions, et avec un livre et tout ça. Donc, alors, elle a dit, donc, mais quand même, je veux envoyer... Après, elle a vu, elle a dit, waouh, le film est formidable, une amie à moi qui est poète et traductrice... va beaucoup, beaucoup, et qui connaît l'Yiddish, va beaucoup le mieux, est-ce que je peux l'envoyer? Je dis, bon, tu envoies qu'à elle, mais tu dis qu'elle, bon... Et après, cet ami a dit, ah, les films formidables, est-ce que tu permets que tu aies envoyé à mon ami sud-africain qui vit en Australie maintenant, les prix Nobel Coates. Ah. J'ai dit non, je veux pas que les films circulent. Et après, Judith m'a dit, parce qu'après, ça va passer comme ça partout. Je veux, bon, bref, que, bref. Après, Judith me dit, mais quand même, tu veux pas...
Quand même, c'est l'époque virale.
Non, c'est tu veux pas que des gens comme ça le voient.
Qu'il attrape le virus du film.
Donc oui, c'est ça. Alors, il a vu, il a trouvé que c'était très intéressant. Et il a dit, il a remercié beaucoup, etc. Il a dit que c'était très intéressant, qu'il est troublé du fait qu'il a pu les comprendre. Parce que, bon, il est avec les Dutch, il est sud-américain, sud-africain. Et avec les Dutch, il comprenait quand même pas, et pas mal. Et il était troublé de fait, il s'attendait pas du tout qu'il va comprendre autant. Et il a dit, bon, quand le film va sortir, les DVD, etc., avec les livres, vous me dites pourquoi, ça veut dire que, bon, voilà, ça, comme tu dis.
Mais ça ne m'étonne pas du tout en fait qu'un sud-africain qui parle néerlandais ou l'afrikaans comprenne du yiddish, parce que moi personnellement, même après avoir appris le yiddish, je comprends plus ou moins le néerlandais aussi, de manière tellement bizarre. Parce que
c'est des mots ici par là.
Des mots ici par là, on peut reconstruire le sens de ce qui se dit.
On croit qu'on peut reconstruire.
Oui, on croit qu'on peut reconstruire, mais il y a aussi, la syntaxe elle est très proche, donc on complète un peu la phrase dans sa propre tête. Et même le yiddish chez moi, c'est pas du tout ma langue maternelle ou quoi que ce soit, donc ça se complète avec les autres langues que j'ai.
Ouais, mais c'est pour moi le cas, parce que moi, je viens d'une famille où ça parlait l'allemand, et ça a été vraiment, vraiment, vraiment considéré comme... je ne sais pas comme quoi, mais ce n'était pas très apprécié, je crois. Et c'est vraiment troublant je comprends, je ne comprends pas. J'ai pensé toujours, enfant, je comprenais tout ce qui était dit dans la rue. Hein. Mm-hmm. Et j'ai pensé que vraiment, je comprends tout dans cette langue. Et jusqu'au jour que je suis allée voir Mirelle et Ephras au cinéma, je ne comprenais plus rien. Je pensais, oui, enfant, que je comprends la langue, mais dès qu'elle était un tout petit peu plus haute,
ouais,
et c'était, je ne comprenais pas.
Mais,
et puis,
oui, pardon.
Oui, et puis mon problème est que je fais... bon, je fais un cours d'yiddish pour préparer les films et tout ça. Je fais un cours d'yiddish l'été et tout ça, mais j'arrive pas du tout à parler parce qu'il me sort l'allemand et je vois le visage de mon, oui, interlocuteur.
Sidéré.
Tu parles l'allemand vraiment. Bon, alors je m'étais.
Oui. Oui.
Et en plus, je sais les lire parce que je comprends l'hébreu.
Oui.
Mais je ne sais pas vraiment les lire.
Mais tu comprends à l'oral, tu comprends et tu peux le lire, sauf que je sais que les caractères hébraïques en yiddish te troublent aussi. Parce qu'il y a trop de caractères.
Oui, je trouve qu'il y a les mêmes problèmes. Et je parle l'allemand, mais j'ai du mal à lire avec ces mots très longs. Donc j'ai du mal à photographier le mot entier. Mm-hmm. Et c'est la même chose en yiddish. Bon, va savoir pourquoi mon cerveau... Il est comme il est, mais bon, ceci dit, je peux lire, je peux comprendre, évidemment, pas tout, mais plus à cause de ces trois...
Oui, mais je dirais quelque chose par rapport à ce que tu as dit, enfant, que tu croyais comprendre tout ce qui se disait dans la rue. Je pense que c'est peut-être... Et puis, quand tu regardais le film, c'était différent. C'est peut-être... Ça a à voir peut-être aussi avec la différence entre la langue orale entendue parler dans un espace physique, réel, corporel, et une langue qui est enregistrée, figée, et très dirigée, c'est-à-dire au cinéma, à la radio, quand à la radio, là par exemple, on parle, c'est une conversation, mais s'il y avait un scénario, et je ne dis pas qu'il n'y en a pas ce soir, aujourd'hui, mais s'il y a un scénario et le texte, il est dirigé, donc parfois, on n'a pas ce va-et-vient, qui permet justement de comprendre par osmose. Donc peut-être que...
Je ne sais pas exactement. Ce que je peux te dire, que tout d'un coup, évidemment, c'est un niveau beaucoup plus élevé de conversations que j'ai attendues dans la rue. Et je crois qu'il était... Oui, et je crois surtout que c'est vraiment... C'est bon, voilà, c'était... c'était quelque chose que j'ai compris, que vraiment j'étais impressionnée par le fait que je comprends pas tout comme je pensais comprendre. Donc une langue, c'est autre chose. Et revenons sur le film, hein, dans lequel c'est quand même un film sur la poésie.
Exactement, oui, je voulais en arriver, que justement là il s'agit d'un film sur la poésie, et pas n'importe quelle poésie, c'est de la poésie de l'avant-garde d'entre les deux guerres. La poésie moderniste, la grande floraison de l'époque moderniste dans la littérature et la pensée yiddish, on peut dire, mais dans le monde yiddishophone, disons-le comme ça. Parce qu'avant, juste avant d'aborder le sujet du film, j'aimerais s'attarder une minute sur le titre et sur le mot yiddish même. Parce que bon, le film s'appelle Yiddish. C'est pas un choix anodin, je crois, mais le titre m'a fait penser à un poème que j'ai découvert récemment grâce à une initiative de la Yiddish Book Center aux États-Unis, où ils ont pris un poème de Aaron Zeitlin qui s'appelle Zex Shures, six lignes, l'ont donné à sept traducteurs, c'est par hasard le même nombre d'intervenants qu'il y a dans le film. Et ces traducteurs pour essayer de pour voir comment les sept traducteurs traduiraient ces six lignes, ce poème qui s'appelle Six lignes, Zex Shures, qui comprend six lignes. Et je vais lire juste les trois premières, si tu me permets. Zex Shures, Darren Zeitlin. Chveis, keiner darf mich nicht auf otter oilem, mich werter Bettler auf dem jüdischen Beisäulem. Wer darf alid ou noch dazu auf Yiddish? Ce qui veut dire, j'ai fait une traduction plus ou moins littérale, mot à mot, ce qui est du genre de traduction que j'aime aussi. Je sais, personne n'a besoin de moi parmi ce monde. Moi, Clodo Demo, dans le cimetière juif. Qui a besoin d'un poème et encore en Yiddish? Alors, juste avant, ce qui m'a. Perturbé dans ces trois lignes, c'est qu'on a un yiddish in Beisäulem et ensuite le yiddish comme nom de la langue. Et dans la question de la traduction, comment est-ce qu'on traduit un yiddish in Beisäulem? Est-ce qu'on le traduit comme cimetière juif ou cimetière yiddish? Et ce poème-là, par ailleurs, a été écrit après, dans la période après celle que toi tu traites dans le film. C'est un poème de 47. Donc il se peut aussi que Zeitlin parle justement d'un cimetière yiddish, justement, où la langue elle-même a disparu. Mais le titre du film m'a renvoyé à ce poème. Et puis à réfléchir sur même le nom de la langue, quand on l'entend... tel quel, yiddish, ça signifie la langue. Mais si on le traduit, ça se traduit comme juif. Ce qui, justement, est une chose qui est négociée au sein du yiddish, de la langue yiddish avant-guerre, mais aujourd'hui, d'autant plus. Et par là, je veux arriver au film, qui n'est pas un film sur... la judaïcité du yiddish, n'est-ce pas?
Et justement, tous les poètes qui sont tous les poètes dans le film, et hommes et femmes, poètes et poétesses, aucun dit qu'il est juif, aucun parle aussi de la langue yiddish. Hein? C'est-à-dire, il ne les dit pas. Et pourtant, il se trouve que tous les poèmes choisis sont très personnels, c'est presque des autoportraits, hein. Et pourtant personne n'est dit qu'il est juif, et il écrit dans la langue juive, hein, qui est le yiddish. Et les titres, les titres, il aurait pu être pour moi 7 poèmes en yiddish, hein, quelque chose comme ça. Parce que vraiment, je crois que la poésie, c'est le pilier du film. Les 7 poèmes, et autour d'eux, il faut dire qu'il y a des jeunes gens qui en parlent passionnément, des gens jeunes, comme étaient les poètes, hein, c'est-à-dire que c'est comme ils se projettent en arrière avec des gens de leur âge, des poètes, de qui ils parlent passionnément. Mais je choisis yiddish parce que c'était le choix, en fait, des poètes d'écrire en yiddish. Et c'était pas une évidence. C'est ça qui est intéressant. Mm-hmm. Parce que, surtout pour les femmes, parce qu'il y a 3 poétesses, dans le film. Et pour les femmes, qui certaines, c'était une langue maternelle, et pour certaines, pas. Hein. Et elles n'ont pas appris à écrire en yiddish, elles n'ont pas appris les lettres hébraïques. Elles sont allées à l'école, l'une en russe, l'une en polonais, c'était pas... Et quand on parle... Bon, voilà, c'est-à-dire que les femmes n'étaient pas... Elles ne sont pas allées dans les cheders pour apprendre les lettres hébraïques, et comme les garçons, et du coup, elles ont appris d'écrire le yiddish en lettres hébraïques, et parfois... comme Fogel, par exemple, elle a pris la langue elle-même. Donc, c'est un choix d'écrire en yiddish. C'est pas rien, hein. C'est pas rien, c'est un choix d'écrire en yiddish. Pourquoi elles ont... Et pour les hommes, je sais, Halpern, par exemple, il a déjà publié en allemand. Il a décidé d'écrire... Bon, ils étaient en grande partie aux États-Unis. Il y avait un milieu yiddishisant, effervescent, extraordinaire... Et ils savaient qu'ils vont être lus par beaucoup de monde, mais pas, par exemple, Fogel, elle n'habite pas là-bas, mais elle savait qu'elle va être lue peut-être dans le monde entier et sur tous les continents, parce que quand je dis tous les continents, c'est aussi l'Australie, c'est l'Afrique du Sud, ça veut dire tout, partout, ils vont être lus, et puis surtout, il a fait ce milieu, et il était très vivant, hein, c'est-à-dire que Fogel, je reviens, elle était à Varsovie. Je crois qu'elle découvre un milieu très très vivant de littéraire, de journaux. C'était formidable. Donc pour moi, yiddish, c'est le choix d'écrire en yiddish de ces écrivains-là. Bon, il y avait comme Markish, c'était sa langue maternelle, etc. Mais ils sont pas tous de langue maternelle. Et ce qui est intéressant, c'est que mes intervenants, les jeunes intervenants, ils sont pour personne sur une langue maternelle. Mmh. C'est-à-dire ils découvrent toute cette poésie extraordinaire, et ils tombent amoureux de la modernité de cette poésie. Et c'est incroyable de penser que dans le film, il y a ces poèmes que certains n'étaient jamais traduits dans aucune langue. Certains étaient traduits dans, je ne sais pas, en polonais, parce que Caroline a fait une grande travail. Hein?
De traduction, sortie de livres.
Oui, mais quand même, on a tout traduit de nouveau. Mm-hmm. Et en France, c'est Arnaud Bicard. Et en Israël, c'est Dori Parn. Bon, aux États-Unis, il y a aussi une Shoshana. C'est formidable. Tous ces poèmes sont traduits en 3 langues, et, parce qu'il y a 3 versions. Et dans le livre qu'on est en train de préparer...
Le livre qui va sortir avec le DVD.
Avec les DVD. Mm-hmm. Et pour moi, le livre, c'est presque aussi important parce qu'il y a... ces poésies qui vont être là
en éditées pour la première fois.
Éditées pour la première fois, mais en 3 langues, parce que dans les livres, les livres, les poèmes vont être là en 3 langues. Tu vois, c'est bon pour moi. C'est, j'ai même pas pensé au début que c'est ce que je te dis maintenant. Mm-hmm. Tu vois, j'ai commencé, etc. Et je dis waouh, on fait revivre, et pas n'importe quel poème, des poèmes absolument extraordinaires, magnifiques. Qu'on se demande comment c'est des grands poèmes qui ont la qualité d'une poésie.
Oui, tout à fait. C'est ce qui m'a choqué aussi quand j'ai commencé à apprendre le yiddish. C'était la qualité fraîche, nouvelle, internationale, disons, de poésie, d'écriture, de littérature, de toute cette époque du foisonnement yiddish, qui était vraiment au niveau mondial. C'est-à-dire,
oui, mais parce qu'ils étaient, c'est-à-dire, ils étaient en dialogue avec la poésie internationale, oui, oui, oui. Beaucoup la poésie et moderniste, mm-hmm. Akhmatova, hein, et d'autres, mais ils étaient aussi en lien avec tout le mouvement avant-gardiste,
hein, oui, bien sûr.
Et littéraire, mais aussi les dadaïsmes, hein, je ne sais pas, l'expressionnisme, bon, tous les ismes de toi, et puis avec des mouvements révolutionnaires, même politiques, certains ont adhéré dans des mouvements comme Marx, qui étaient très révolutionnaires, qui c'était, ils voulaient changer le monde. Il y a quand même, bien que les poèmes sont un peu toujours avec un tout petit peu de dépression dedans, on est quand même après la Première Guerre mondiale. Mais il y a quand même une sorte d'espoir pour l'avenir, parce que pour...
Oui, il y a aussi une recherche formelle.
Des mondes nouveaux,
oui,
avec une recherche formelle de nouvelle poésie, quoi.
Oui.
Et ça, c'est extraordinaire. Mm-hmm. C'est pour ça que tous ces jeunes, que je trouve absolument, je trouve mes protagonistes absolument, je ne sais pas, ils m'ont fait les grands cadeaux chacun d'eux, vraiment je les aime tous, par rapport à qu'ils ont fait ces cadeaux de pouvoir expliquer leur passion à eux. Et pour moi c'est comme une passion vers la poésie. Je ne sais pas s'ils ont appris d'abord la langue ou le poème, pour moi, ou la poésie, je ne sais pas dans quel sens ça va. Mais ils étaient tous attirés par la poésie. Et moi, je trouve, qui a vu un film, dans n'importe quelle langue, hein, de cette personne qui parle de la poésie, de la traduction, avec tant de passion, et que dans le film, il y a, montre-moi un autre film avec cette pointe dedans, et... dans n'importe quelle langue, mais parce que c'est tellement, tellement impressionnant. Et les poèmes, et le fait de la découverte de ces poèmes, et la langue poétique, et la langue yiddish en général, mm-hmm. parce que comme je dis, c'est pas leur langue, c'est pour chacun.
Oui, c'est pas la langue.
Chacun raconte comment il a fait cette rencontre, et qu'une fois cette rencontre faite, on peut pas lâcher, hein.
Et dans ce sens-là aussi, le film, c'est un film extraordinairement contemporain. C'est-à-dire, ce n'est pas un film documentaire sur une époque révolue, d'avant-guerre, quand les jeunes écrivaient de la poésie ou quelque chose comme ça. Justement, tu n'aurais pas pu faire ce film il y a peut-être même 5 ans ou 10 ans. Ça reflète d'une certaine manière ce qui se passe dans le monde yiddishisant, yiddishophone. Pas comment on veut l'appeler, actuel. C'est-à-dire, c'est le fait qu'il y a des jeunes qui s'intéressent au Yiddish de cette manière-là aussi.
Oui.
Pas seulement pour ce... Voilà, pas forcément par des liens familiaux.
Oui, mais pas familiaux, mais quand même... Migled, qui est de Vilnius,
ouais.
Et Caroline, qui est une des grandes spécialistes, mais qui est en Pologne. C'est-à-dire ce qu'elles disent toutes les deux, que ça fait partie de leur culture. Leur culture, de là. Hein? C'est-à-dire, cette poésie-là était écrite dans cette ville-là, raconte Miglet. Hein? Là, et à côté, et qui tout d'un coup, oui... On sait l'horreur qu'il y avait après, mais ça s'est venu via une poésie. Miglet découvre, et parce qu'elle travaille dans la Bibliothèque nationale, elle découvre un peu par hasard. Elle a appris le chinois, elle a appris l'hébreu, sa prof a trouvé qu'elle était géniale, ce que j'ai trouvé aussi. Et lui a proposé de travailler avec elle dans la Bibliothèque nationale. Et là, elle tombe sur les autobiographies de jeunes gens avant la guerre qui devraient écrire leur autobiographie. Mm-hmm. Et ce qu'elle trouve qui est intéressant, c'est que on ne leur a pas demandé d'écrire la poésie, pas du tout, mais la poésie était tellement présente que tous, ou la plupart, ont mis de la poésie, leur poésie, qui n'est pas une grande poésie, hein, qui, mais ils ont mis, parce qu'ils ont mis tous la poésie dedans, parce que la poésie à Vilnius, yiddish, et les poètes étaient tellement de gens tellement importants. Bon, c'est ça aussi. Quelle place prend la poésie, hein? Donc, eux, et là, elle, bon, qu'elle aimait lire, donc elle a feuilleté, donc elle a regardé plutôt ce qui était un peu court, les poèmes, c'est extraordinaire de découvrir ça et de découvrir aussi qu'à l'époque, quelle est la place des poètes. Quand Raphaël raconte que Markish remplissait des salles, hein, évidemment, il était aussi très beau, alors toutes les filles qui venaient là, mais les gens se sont accrochés aux fenêtres, et c'était tellement plein. Il dit que c'était un concert de rock aujourd'hui, bon, il exagère peut-être un peu, mais quand même, c'était que c'est plein,
oui, oui.
Et que les gens s'accrochent à des fenêtres pour venir écouter Markish lire une poésie, et qui n'est pas simple du tout. Vraiment, c'est peut-être le plus compliqué de tous, mais elle est extraordinaire. Mais elle est, donc, on a aussi un témoignage quelle était la place de la poésie à l'époque. Hein? C'est-à-dire, quelle place avaient les poètes, quelle place ils avaient dans la société. On a de quoi se dire, bon, aujourd'hui...
Oui, donc c'est vraiment un film. Bon, c'est un film qui s'appelle Yiddish, mais c'est un film sur la poésie. Mais oui, cette idée de le Yiddish, c'est vraiment peut-être une de ces langues à travers lesquelles on peut voir, on peut s'interroger sur ce que c'est qu'une langue, dans le sens où à qui ça appartient, disons-le comme ça. Aujourd'hui, dans le discours ambulant, on entend de plus en plus des réclamations d'ordre nationaliste de ses origines, de ses racines, de ses langues, etc. etc. Le Yiddish, pour moi, ça a toujours été la preuve absolue et définitive que les langues n'appartiennent à personne. Absolument personne.
Oui, appartenir déjà, bon, peut-être nous appartenons à la langue.
Ça, c'est plus...
Mais encore, mais... Oui, mais c'est-à-dire qu'il y avait un cosmopolitisme...
Oui, bien sûr, après, par la situation particulière du Yiddish.
Oui, parce qu'ils étaient de partout, et le Yiddish n'était pas les mêmes, là, ouais. et là. Mais, et tu sais, je ne sais pas, on parle toujours de Yiddish Land, donc on renvoie... À un lieu géographique, mais tu sais comment le Yiddish Land était le mot était inventé,
oui,
c'est
oui.
Parce qu'il y avait les pen clubs à les gens envoyaient les gens de pays de tous les pays envoyaient des poèmes et dans pen club etc. Et il fallait remplir le nom
d'origine,
le lieu de quel pays ils envoyaient. Comme il n'y avait pas un pays parce qu'ils venaient de partout, ils ont inventé le terme Yiddish Land. Mais c'était pas, c'était un terme littéraire.
Oui, je crois que c'était un bureau à Varsovie. Le Yiddish Land, c'était l'adresse d'un bureau à Varsovie.
Peut-être, mais c'est-à-dire que c'était même pas, c'était complètement, c'est pour, ok, mais c'était un mot, il correspondait pas à un lieu,
oui.
Justement.
Oui.
Maintenant, on a toujours tendance, on utilise, on renvoie Yiddish Land, bon, aux endroits où le Yiddish était parlé.
Oui. Alors, Noé, tu as fait 14 films en tout
comme réalisatrice, je crois, oui, mais je fais une centaine comme chef opératrice,
la première chef opératrice femme de France.
Oui, la première chef opératrice. Beaucoup de films avec Barda et Guita et plein. À Lyon.
Mm-hmm.
Bon, bref.
À Lyon.
Oui.
Donc, du coup, ce film-là, Yiddish, comment est-ce que tu le vois s'insérer dans ton œuvre cinématographique
dans lequel il y a beaucoup de films sur les langues.
Dans lequel il y a il y a beaucoup de films sur la justement.
Oui.
Il y a la trilogie
sur l'hébreu et d'autres.
De traduire la langue sacrée et d'une langue à l'autre.
Enfin, traduire, je l'ai fait
dans l'ordre inverse.
Oui. Traduire.
Mais
curieusement, il vient après le film qui s'appelle Signé. papier sur les langues de signes, je dis bien les langues de signes en pluriel, et que on aurait pu croire, parce que dans, sur le yiddish, on a déjà parlé avant dans le film, Libosco était dans le, déjà le film traduire, et il y avait dans Langue sacrée, Langue parlée, on a parlé d'yiddish, mais ça m'est jamais venu à l'esprit que j'ai parlé moi de yiddish, hein. Ça appartenait au yiddishisant. Et c'est curieusement, justement, après signer, que j'ai entendu dire à peu près les mêmes choses. Mmh. On a dit, ce n'est pas, on a dit, ce n'est pas une langue et elle n'a pas de grammaire. Et ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai entendu sur le yiddish. Ce n'est pas une langue et elle n'a pas de grammaire. Et justement, j'ai tellement travaillé sur la grammaire. Et d'ailleurs, j'ai travaillé pas mal avec toi. On a essayé de comprendre la grammaire des langues de signes. Et...
Mais là, je comprends une autre chose aussi. C'est que je me souviens que dans signer, il y avait aussi la question de la poésie. Que beaucoup de gens, ils se demandaient, est-ce qu'il y a de la poésie dans ces langues de signes?
Oui, et puis les gens comprennent ce que moi aussi, je comprenais mal au début. Oui. J'ai pensé... que parce que maintenant beaucoup tu vois sur YouTube de gens qui prennent des chansons et signent en même temps, mais c'est pas la langue des signes, parce que justement la syntaxe reste, et ça c'est intéressant, la syntaxe reste celui de la langue parlée, orale, vocale, la syntaxe reste et on ajoute le signe. Ça veut dire
c'est une illustration de la langue orale,
c'est
en fait
littéral, tout de suite je vais revenir. Hein. Mm-hmm. Et c'est mot à mot. Tandis que la construction, la syntaxe de la langue des signes n'est pas du tout celui-là. Donc tous ceux, même dans Nelken, tu sais, c'était de Pina Bausch, il y avait les Amen, I love, tu sais, tout ça. Et c'est pas la langue des signes, c'est. Ce qu'on dit, la langue signée, bon bref, je ne veux pas les nommer, mais c'est un mot à mot qui n'est pas la grammaire et la syntaxe de la langue des signes. Et en fait, ça me rappelle le yiddish qu'au début, où un enfant, les enfants, même aujourd'hui, à Meacharim, quand on lit la Bible, on sait, il y a une traduction mot à mot. Et c'est-à-dire, il y a et Bereshit, un enfant, comme ça,
un enfant,
tu vas parler allemand, donc heureusement que tu es là. Bon, et mot par mot, mais ça fait pas une phrase, c'est pas une phrase en yiddish, c'est mot à mot. Et d'ailleurs, les ladinos, c'est ça les vrais ladinos, c'est les calques, c'est-à-dire on traduisait la Bible à l'époque quand on était encore en Espagne. On traduisait la Bible mot à mot qui gardait la syntaxe hébraïque. Hein. Mm-hmm. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on faisait, c'est la garde de la syntaxe hébraïque, mais ce n'est pas des phrases, le ladino, c'est qu'on appelait ladino. Le ladino, entre-temps, on appelle ladino, la langue parlée, etc. Mais au début, c'était cette même... Et je crois que dans toutes les communautés juives, on faisait, j'imagine que aussi quand les enfants dans les pays ont parlé l'arabe, c'est pour que l'enfant comprenne et on lui a dit un mot à mot. Et ce qui est intéressant avec, tu vois, je n'ai pas pensé à ça, avec la langue des signes, c'est en fait quand on le chante sur YouTube, c'est un mot à mot, mais ce n'est pas la langue des signes. Hein. Et c'est intéressant parce que les yiddish, donc, qui n'est pas le yiddish parlé, c'est bon, Taichen. Hein? Taichen qui veut dire Deichen, qui veut dire traduire vers l'allemand en mot à mot, comme j'imagine ladino, latino, donc mettre en latin, parce qu'à l'époque, l'espagnol et toutes les langues s'appelaient. Espagnol, et non, et latin. Donc c'était latinisé, latinisé. Ouais. Donc voilà, c'est intéressant parce qu'il y avait comme ça, comme association d'idées, des langues mineures qui ne sont pas considérées comme langues, et voilà, c'est comme ça, que c'est comme là, l'Yiddish est venu, pourtant il aurait pu venir par ailleurs. Et oui, la poésie, bon, c'est parce que c'est là, parce que je ne sais pas comment ça se fait, que j'ai commencé à lire la poésie, un poème, bon, parce que j'ai commencé à m'intéresser, tout ça, et j'ai dit, waouh, quelle poésie, il faut qu'on en parle.
Puis, mais voilà. c'est un sujet qui te tient en cœur.
Bien sûr, le film précédent, oui, oui.
Parce... La poésie.
Oui, parce qu'en fait, films, quand dans tous mes films.
Et dans
quand...
le film d'avant, il y a cette poétique du cerveau aussi.
Oui, ça, on va revenir. Oui, mais. Mm-hmm. Et d'une langue à l'autre, mm-hmm. J'ai parlé avec des gens, donc avec des poètes et des écrivains, dont la langue maternelle n'est pas l'hébreu, et ils écrivent en hébreu. Mais je trouvais toujours que les poètes étaient ceux qui arrivaient le mieux d'expliquer la langue, parce qu'en fait, il y a une recherche autour de la langue, évidemment, même les écrivains, Appelfeld est formidable, etc. Mais pour moi, c'est et pareil, langue sacrée, langue parlée, c'est des poètes, et même dans traduire, on parle beaucoup de poètes, des traductions de la poésie. Parce que autour de la poésie, il faut se demander la question de la langue. Donc, quelle est la langue dans laquelle j'écris, comment j'écris, quelle est sa musique, et quand traduire, comment on traduit la poésie. Hein, c'est oui, je crois, je ne sais pas. J'ai toujours. Je crois, pour moi, il y a la question, même caméraman woman que j'étais. Et c'était la question du langage cinématographique et les rythmes, c'est-à-dire les langages. Je me suis sentie comme camerawoman quand je ne faisais pas encore mes films, comme traducteur de scénarios qu'il faut passer en images, en son et en images, et comment... Et donc, je me suis sentie traducteur, et quand je fais mon propre film, mon défi le plus important, c'est le rythme. Hein. On croit que c'est l'image, mais l'image, pour moi, c'est acquis. C'est-à-dire, oui, bon, les images, je sais faire, je crois, et ensuite, il y a une recherche pour moi du portrait, et comme si c'était des portraits sonores. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des portraits de gens qui parlent souvent de leur passion dans beaucoup de films, y compris justement dans Poétique du cerveau. Et c'était autour de la passion. C'est-à-dire que. Et ce film-là, il dit aussi, tous les gens qui parlent, ils parlent de comment ils sont arrivés à s'intéresser à ça, comme le chercheur. Et comment ils sont des gens passionnés, c'est-à-dire qu'ils continuent à être passionnés. Et c'est vrai que c'est ça qui m'intéresse. Hein. Je veux dire, c'est souvent, on ne se rend pas compte que c'est peut-être si quelqu'un un jour va faire l'ensemble, il va voir que ça tourne autour de la passion.
La passion est des moyens de son expression aussi.
Oui,
et comment elle
comment
exprimée.
C'est les comment, moi,
oui,
c'est
le comment. Exactement, c'est le medium comment, is the message.
Oui, pour moi, le comment, c'est beaucoup le rythme, donc mm-hmm. c'est le rapport, pour moi, vraiment, c'est le rapport entre l'image et le son, et c'est quelque part, bon, c'est vrai, on dort dit entre deux, etc., mais c'est vrai, c'est là, dedans. Oui. Raviva Pedaya, dans le film, je crois, d'une langue à l'autre, elle dit entre... Ivriouti et Arviouti Nekudat Ivaron. Bon, tu entends, il y a un jeu de mots. Entre mon hébraïté et arabité, un point aveugle. Et c'est dans ces points, à partir de ces points aveugles, que je crois que surgit la poésie. Hein? Et Agi Michol aussi parle de cet endroit entre. Et je crois que des gens qui parlent des langues, bon, il y a les entre qui circulent et qui prend des dimensions différentes. C'est entre les langues, entre les lieux. C'est le côté mouvement, dynamique qui est toujours là et qu'on cherche sa forme, de sortir ces points aveugles. Comment on lui donne forme, hein?
Ça me fait... Oui, c'est vraiment... C'est... tu montres mieux que personne, enfin, tu montres le moyen, c'est-à-dire tu purifies d'une certaine manière le... c'est difficile de trouver des mots même, c'est-à-dire ce point, ce l'entre-deux dont tu parles, mais aussi, enfin, je vais l'évoquer par les fenêtres qui sont présentes dans ton œuvre, c'est-à-dire la fenêtre qui englobe un peu tout ça, mais de manière, c'est une...
Oui, je peux dire, réduction. Justement, je peux dire que la fenêtre, pour moi, formellement, si tu penses la fenêtre... Qu'est-ce qui fait fenêtre? C'est les bords de la fenêtre.
Oui, exactement, et c'est le cadre.
Oui, c'est les bords. Mm-hmm. Et les bords, ça veut dire en hébreu, sa fin.
Ah.
Les bords, sa fin. Ça veut dire la langue en hébreu. Donc c'est les lèvres, hein, je l'ai dit. Déjà, mais dire que... Je crois que c'est vraiment, vraiment... Et travailler les bords, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui était mon étudiant il y a peut-être 30 ans, et j'ai dit, je me rappelle tous les jours de ce que tu as dit, vous ne regardez pas le centre des nuages, vous regardez toujours le bord. Tu vois, donc cette histoire que les bords, qui sont les limites, qui sont les frontières,
qui sont c'est la frontière. Les points aveugles aussi, parce que c'est le bord qui te cache ce qui est derrière.
Oui, mais c'est là... où ça se passe, dans les frontières, dans les bords. Et c'est cela. Il m'a dit, 30 ans après, je l'ai rencontré maintenant, il m'a dit, oui, tu nous as dit de ne pas regarder les centres d'image, de regarder que ces bords pour cadrer, pour faire l'image. Hein. Et pour faire l'image, oui, c'est regarder les bords.
Très bien. Donc, pour cadrer notre conversation, Nourrit Aviv, merci beaucoup pour cette conversation. Et je vous recommande à tous nos auditeurs d'aller regarder le film dans sa version originale longue au cinéma Détroit Luxembourg à partir du mercredi prochain, le 24 juin.
C'est l'après-midi, à 16h30.
Donc Nourrit, tu seras là mercredi pour la ressortie du film.
Peut-être je viendrai aussi dimanche.
Mais
il est tous les jours, il y a des séances.
Tous les jours, il y a des séances. Voilà, donc si vous voulez voir ou revoir, ce que je recommande aussi, le film de Nourrit Aviv sur le yiddish et la poésie et la passion et le cadre et les moyens et l'art et la compréhension, voilà un film pour vous. Merci beaucoup, Nourrit.
Merci à toi, Shachar.
Nourrit Aviv. Lors de la conversation avec elle, j'ai évoqué ce poème de Aaron Zeitlin qui s'appelle « Sechs Shures, six lignes », dont je n'ai lu que trois. Pour clore cette émission, donc, j'aimerais le lire en entier, en yiddish, puis en ma traduction, littérale, ou plus ou moins littérale, comme je l'avais dit lors de l'entretien. Et ensuite, j'expliquerai pourquoi. Aaron Zeitlin, Sechs Shures. Ich weiß, keiner darf mich nicht auf ot dem Eulem. Mich wird der Bettler auf dem jiddischen Beisäulem. Wer da verliert und noch dazu auf jiddisch? Nur bloß das Hoffnunglose auf der Erde ist schön und göttlich ist nur das, was muss vergehen und nur ach neue ist mir jiddisch. Six lignes de Aaron Zeitlin. Je sais, personne n'a besoin de moi parmi tout ce monde. Moi, Clodo Demo, dans le cimetière yiddish. Qui a besoin d'un poème? Et ça alors, en yiddish. Mais seul le sans-espoir sur terre est beau, et divin n'est que ceci qui doit s'en aller. Et seule la soumission peut se révolter. Dans ce poème écrit en 1947, le poète se demande quelle est la place d'un poème yiddish dans le monde d'aujourd'hui, son monde d'aujourd'hui. C'est un poème qui, juste avant la guerre, ne se serait jamais imaginé son après. Et pour comprendre un tel poème d'un poète comme Aaron Zeitlin, qui vient de la même génération de la plupart des poètes évoqués dans le film de Nourrit Aviv, il faut aller voir le film de Nourrit Aviv, franchement. Et puis, on peut se reposer la question, qui a besoin d'un poème? Et ça alors en yiddish. Donc le film ressort dans sa version intégrale et non abrégée la semaine prochaine au 3 Luxembourg, le mercredi 24 juin, en présence de la réalisatrice. Et je vous remercie tous, nos auditeurs, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à l'équipe ici à ACJ pour leur travail de réouverture. Et je vous dis à bientôt dans 2 semaines ici sur Yiddish Heint. Bonsoir.
Tates, Mames, Streben, sehr Kinder, ruhigst du geben, weil das ist die größte Frei bei sei. Und als Gott helft, sei sehen, unter der Huppe das Kind stehen, geht der Tate zu der Klezmer angeschrien.